Antoine, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce qui se passe maintenant ici à Montréal. On est le 3 décembre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que représente cette journée ici?
Ben, aujourd'hui, le 3 décembre, ça marque l'anniversaire du blocage que la communauté a établi. C'est le blocage de plus longue durée de résistance autochtone ici dans l'histoire du Canada. Et c'est important qu'on soit ici pour commémorer ce blocage et exprimer notre solidarité avec les gens de Grassy Narrows qui ont réussi, après toutes les attaques qu'ils ont subies des politiques d'assimilation et du colonialisme canadien à travers le 20e siècle, ont réussi à s'organiser et à se soulever et à établir une opposition forte contre la coupe à blanc que Abitibi fait sur leur terre traditionnelle.
Okay. Combien il y a de personnes de la communauté, je pense que c'est la communauté Ojibwe là-bas, qui sont sur place, donc à Grassy Narrows, en train de bloquer la route?
Ben, la communauté même de Grassy Narrows consiste d'environ 700 personnes, 700-800 personnes. Le blocage a été établi à l'extérieur de la réserve Soie, en Soie, sur une route où passent les camions. Le blocage a été commencé par 40 personnes de la communauté, surtout femmes et jeunes et la jeunesse de la communauté. Mais ils ont le support de toute la communauté maintenant. Cet été, ils ont commencé à établir des roving blockades, des blocages
qui bougent,
spontanés. Et ils ont l'appui de toute la communauté. Et donc les gens, aussi sur le site du blocage, les enfants de l'école sont amenés chaque jour sur le site du blocage, où les cours sont donnés sur le site du blocage, où on donne les cours sur la vie, sur les pratiques traditionnelles. Et donc il y a toujours une présence sur le blocage en soi. Et c'est des gens qui font de la communauté qui font une rotation pour toujours avoir une présence et être prêt pour n'importe quoi.
Et pourquoi est-ce qu'on bloque, on fait ce blocage-là en fait?
Bah, depuis les années... depuis ça fait plusieurs années, Abitibi, qui a été donné un permis par le ministre de ressources naturelles de la province d'Ontario, est en train de pratiquer la coupe à bois sur les terres traditionnelles de la communauté Grassy Narrows. Mais dans les années 90, cette coupe à bois a été intensifiée, surtout à cause d'une... en grande partie à cause d'une hausse dans la demande de papier des États-Unis. Et c'est important de noter que plus de 50% des produits de Abitibi sont vendus aux États-Unis. Et donc ces pratiques ont intensifié et la communauté qui sont des trappeurs traditionnels ont réalisé les effets dévastateurs que ces pratiques avaient sur leurs pratiques traditionnelles. Donc ils ont essayé à plusieurs reprises de suivre les chemins législatifs, administratifs, officiels que le gouvernement ou que la corporation établit supposément de consultation. Mais c'est un exemple parfait du racisme environnemental qu'il y a ici au Canada. Leurs voix n'ont pas été écoutées, leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Et le gouvernement, la province d'Ontario continue à donner des permis à Abitibi sans prendre en considération les voix et les préoccupations de la communauté de Grassy Narrows.
Quels sont les impacts sur la population de Grassy Narrows, de ces coupes à blanc, et aussi donc de ces déplacements de population et tout ça? Quel est l'impact au niveau social et peut-être même de la communauté de Grassy Narrows?
Ben, c'est important de voir que c'est une communauté qui survit à travers de ces pratiques traditionnelles de subsistance. Qui sont surtout faire la chasse et du trappage. Ce sont des trappeurs traditionnels. Et donc, ils ont vu que ces pratiques, en étant une destruction, une attaque directe à leur environnement, comme leur culture et leurs pratiques traditionnelles sont fort basées à leur relation à la terre, ils ont vu que ces pratiques étaient une attaque directe contre leur culture en soi. Et donc, ils ont reconnu que ceci... et ce sont des pratiques de génocide du gouvernement qui continuent. Et donc c'est ça qui leur a poussé à lever le blocage. Après avoir essayé tant de fois de se faire écouter, ils ont décidé de lever le blocage.
Et quelle est la réponse de Abitibi Consolidated par rapport à ce blocage-là?
Abitibi a été silencieux et n'a pas fait de réponse avant et n'a pas pris en considération les préoccupations de la communauté. Ce n'est que en novembre dernier, après 11 mois du blocage, qu'Abitibi a finalement fait une approche pour établir un partenariat, ce qu'ils appellent un partenariat. Cette approche qui est proposée par Abitibi a été proposée de façon unilatérale, sans avoir avant consulté ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement provincial, ni la communauté en soi. La communauté n'a pas encore donné de réponse officielle à l'offre de Abitibi, mais on peut déjà voir et il faut se rendre compte que la façon à laquelle l'offre a été faite est une expression du fait que Abitibi ne reconnaît pas que ce sont des droits de traité qui sont en question ici et qu'il faudrait donc, pour qu'un partenariat, comme il l'appelle, soit établi, il faudrait la participation du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, de Abitibi et de la communauté. Et donc le fait qu'Abitibi ait fait cette proposition tout seul, on peut voir que c'est beaucoup plus une question de relations publiques que de vraiment chercher à établir un partenariat, parce que ça nie complètement ces faits-là, que c'est des questions de traité, des droits qui ont été donnés à la communauté dans le traité numéro 3, signé en 1873. Et donc, en faisant cette proposition, Abitibi nie ces effets-là, et on peut clairement dénoncer que ce n'est qu'une question de relations publiques.
Et quelle est la réponse donc des gens de Grass and Arrows à cette proposition?
Je ne pourrais pas dire exactement. On est en contact avec la communauté et on connaît la perspective de plusieurs personnes de la communauté, mais en tant que communauté, ils n'ont pas encore fait une réponse officielle et donc je ne peux pas commenter sur ça.
Okay. Et combien de temps est-ce qu'on pense que le blocage va se poursuivre? Est-ce que ça peut se poursuivre encore longtemps?
D'après ce qu'ont dit plusieurs membres de la communauté, leur plan est de garder le blocage. Et de continuer leur résistance jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite.
Et comment ils sont installés, les gens de Grass and Arrows, dans ce blocage-là? Ils ont mis des tentes ou comment est-ce que fonctionne donc la vie maintenant durant ce blocage-là là-bas?
Depuis le blocage, plusieurs roundhouses et des tipis ont été construits sur le site du blocage. Dans ces nouveaux édifices traditionnels qu'ils ont établis là, c'est là que les gens vivent, où il y a des réunions traditionnelles qui se portent. Il y a eu une réunion du Grand Council of Treaty 3 qui s'est faite au site même du blocage. En ce moment, aujourd'hui, ils sont en train de célébrer l'anniversaire du blocage au site du blocage même. Ils ont invité la communauté, ils ont invité plein d'autres groupes autochtones et la communauté en général à venir. Et il y a une série de célébrations et de workshops qu'ils sont en train de faire.
Okay. Et est-ce que les gouvernements provincial et donc fédéral ont réagi par rapport à ce qui se passe là-bas?
À plusieurs fois, la communauté est allée exprimer leur mécontentement et leur préoccupation au gouvernement fédéral. Ils sont allés jusqu'au bureau de Kenora, ils sont allés au bureau de Ontario, ils sont allés de Ottawa, ils sont allés au bureau de Toronto. Chaque fois, la porte leur a été claquée dans la face et personne n'a voulu parler avec eux. Ce qui se passe, c'est que chaque différent agent dans ce problème nie sa responsabilité et passe la responsabilité à l'autre. Le gouvernement fédéral dit que comme c'est une question de ressources naturelles, c'est la responsabilité des provinces. Les provinces disent que c'est une question autochtone de traité qui a été signé entre le gouvernement fédéral et les autochtones, donc c'est une question fédérale. Abitibi dit la province nous a donné un permis, c'est pas notre problème. Donc ça continue à se reproduire, cette même chose. Finalement, maintenant qu'Abitibi a fait une proposition, le gouvernement d'Ontario, son seul commentaire sur les faits est qu'ils sont en train d'attendre la réponse de la communauté, mais qu'ils sont disposés à discuter. C'est la première fois et ça a pris un an de blocage pour qu'ils répondent finalement.
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir discuter avec les gens de Abitibi Consolidated ici à Montréal?
Non, on ne vient pas nécessairement on parlait avec Abitibi, l'idée générale de cet événement est de faire cette manifestation devant leur bureau et de, au contraire, essayer de parler avec la société de Montréal et leur faire du raising awareness about the issue here in Montreal.
Merci Antoine.
Merci.